Bonjour, vous écoutez le podcast en français d'Investigate Europe. Je suis Anne-Laure Pinault, aujourd'hui je suis derrière le micro, mais d'ordinaire je traduis les enquêtes en français pour cette coopérative de journalisme cross-border que vous connaissez bien. La pandémie, ce serpent de mer qui occupe nos esprits depuis 2 ans, n'est pas au cœur de notre épisode d'aujourd'hui. On va plutôt parler vaccin, car depuis quelques semaines, l'heure est au deuxième rappel pour tous et toutes, et la vaccination des enfants est lancée. Mais souvenez-vous de la foire d'empoigne d'il y a quelques mois, quand les États européens s'étaient organisés ensemble pour commander leurs doses au juste prix, tout en promettant aux pays en développement de bénéficier de doses gratuites, mais sans mise à disposition des brevets pourtant financés par de l'argent public. Depuis, le vaccin pour tous et toutes ne semble plus être l'objectif, alors même que les variants ont changé la donne. Si l'Union européenne a sécurisé 4,6 milliards de doses, de quoi vacciner 10 fois ses 448 millions de citoyennes et citoyens, les laboratoires en ont profité pour faire grimper les prix. Nous accueillons aujourd'hui Maxence Peignet, notre journaliste basé à Londres, qui a remis le nez dans cette enquête sur les vaccins et a retrouvé celles et ceux qui sont allés négocier auprès des laboratoires pour le compte de l'Union européenne. Ce qu'il a découvert est proprement scandaleux. Bonjour Maxence, comment ça va ?
Écoute, ça va un petit peu mieux maintenant, mais pour ne pas te mentir, j'ai fait ma 3e dose justement lundi matin, après 2h30 de queue ici à Londres, et j'étais bien patraque, ça m'a mis plutôt à plat.
Bon, bah c'est bien que tu ailles mieux aujourd'hui. Il y a quelques mois, Investigate Europe sortait une enquête sur la vaccination pour tous et toutes. C'était un objectif logique parce qu'il s'agissait d'argent public, mais c'est complètement inatteignable face au nationalisme vaccinal et surtout face à l'appétit des laboratoires. Pourrais-tu nous rappeler quelles avaient été les principales découvertes de l'équipe à l'époque ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une enquête qui est sortie au printemps 2020, donc avant même la commercialisation des premiers vaccins. Et à l'époque, nous avions suivi l'argent public consacré à la recherche vaccinale contre le Covid-19. Puisqu'il faut le rappeler, les laboratoires ont travaillé sous perfusion de subventions attribuées par les États et aussi par les mécènes, les fondations. Et ce qu'on avait découvert, c'était que la majorité des aides gouvernementales étaient en quelque sorte des cadeaux, puisqu'elles étaient attribuées avec très peu de contreparties, notamment sur le partage mondial des doses. À l'époque, les pays riches, représentant 13% de la population environ, avaient précommandé la moitié des vaccins en cours de fabrication, et ces États avaient aussi manqué le rendez-vous de la solidarité internationale. Pour ne donner qu'un exemple, la plupart avaient bloqué une proposition sud-africaine et indienne de produire un vaccin sans brevet jusqu'à ce que la population mondiale soit protégée. Et puis enfin, on s'est rendu compte que très peu de recours existent pour empêcher l'industrie de tirer profit des vaccins, financés en majeure partie, on l'a dit, par des fonds publics.
Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ?
Alors depuis, les prix payés par les Européens ont explosé. Le Financial Times, ce journal de Londres, a été le premier à révéler cet été que Pfizer et Moderna avaient augmenté leurs tarifs lors de nouveaux contrats signés en mai et juin avec Bruxelles. Ces labos qui, rappelons-le, sont les principaux fournisseurs de l'Union Européenne à l'heure actuelle. Une dose de Pfizer est aujourd'hui vendue 19,50€ contre 15,50€ auparavant. Et de même, Moderna vend sa dose 25$, autour de 22€ donc, au lieu de 22,50€ négocié lors du premier accord, ce qui reste tout de même un peu moins cher que lors du deuxième accord où elle atteignait 28,50€. Alors pourtant, il faut le rappeler, Sandra Gallina, qui est la négociatrice en chef de l'Union européenne, avait assuré en septembre 2020 que les doses coûteraient entre 5 et 15 euros. Au Parlement européen, elle avait même déclaré « Nous ne pouvons aller au-delà de cette limite car ce ne serait plus abordable ». Ces nouveaux tarifs, qui grimpent donc à 20 euros la dose environ, sont d'autant plus étonnants qu'une étude menée par l'Imperial College de Londres a montré que les vaccins à ARN messager pouvaient être produits en masse pour entre 1€ et 2,50€. En se basant sur cette estimation, des ONG avancent même que l'Union européenne a été surfacturée de 31 milliards d'euros. Or, on l'a dit, Pfizer et Moderna ont reçu énormément d'argent public, et la logique voudrait que plus leur production grimpe, plus leur prix baisse. À elles seules, et rien qu'en vaccins, Pfizer, Moderna et BioNTech ont raflé l'équivalent de 60 milliards d'euros pour 2021 et 2022. BioNTech, qui est une entreprise allemande, pourrait même à être seule être responsable d'un bond de 0,5% de l'économie allemande cette année. Pour te donner une idée, Pfizer, BioNTech et Moderna amassent 1 000 $ par seconde, selon une étude récente.
Ce qui est fou, c'est que si je ne me trompe pas, le principe d'une négociation, c'est que tout le monde soit d'accord autour de la table. Pourquoi l'Union européenne ne parvient pas à avoir la main sur ces négociations et sur les prix négociés avec les laboratoires ?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces négociations sont secrètes. La société civile et les parlementaires s'en plaignent d'ailleurs régulièrement, mais les discussions avec les laboratoires se font dans la plus grande discrétion et les prix des doses ne sont pas rendus publics, bien qu'ils puissent parfois chuter, on l'a vu avec le Financial Times. Les noms même des négociateurs de l'Union européenne, pour leur majorité, ne sont pas divulgués. On verra ça plus tard. Mais malgré cela, on a réussi à contacter certains de ces négociateurs, actuels ou anciens, pour essayer de comprendre comment ces prix sont fixés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette enquête dans notre article du 23 septembre. Et ce que ces négociateurs nous ont dit, en premier lieu, pour se justifier d'avoir accepté ces factures plus élevées, c'est que les derniers contrats passés avec Pfizer et Moderna sont plus avantageux, car ils donnent accès à des vaccins améliorés en cas de nouveaux variants, ainsi qu'à des versions pour les enfants, des vaccins pédiatriques. En clair, on paye plus pour un meilleur produit, c'est en tout cas ce qu'ils avancent. Ensuite, ils ont insisté sur le fait que si ces laboratoires fixaient leurs tarifs selon l'utilité de leurs marchandises, on paierait en définitive bien plus puisque ces vaccins sauvent des vies et qu'une vie, par définition, ça n'a pas de prix. Cela étant, et c'est là que ça devient inquiétant, les négociateurs nous ont ainsi avoué plusieurs choses. Premièrement, qu'ils débattaient les prix des vaccins à l'aveuglette, puisque les labos ne leur révélaient ni leurs coûts de production, ni leurs bénéfices après-vente. Deuxièmement, ils ont souffert de la concurrence des États-Unis qui ont signé leur contrat en premier avec des prix élevés. Ils ont aussi souffert en contrepartie de la pression des laboratoires qui demandaient toujours plus. Et enfin, ils ont fait primer la vitesse sur le porte-monnaie car vu la situation sanitaire, le but était d'avoir le plus de doses le plus vite pour mettre un terme notamment au confinement. Tout ça, ça a donné des prix élevés, mais ça a aussi permis d'écarter complètement la notion de bien d'utilité publique durant les négociations, puisqu'il n'a même pas été question de partager les doses avec le reste du monde en rédigeant ces contrats. C'est en tout cas ce que les négociateurs nous ont dit. Ils n'ont tout simplement pas eu le temps de mettre ça sur la table.
Ça semble absolument dingue, la façon dont tu en parles. Tu as écrit un article passionnant sur les intermédiaires, ces personnes qui sont censées représenter les intérêts de l'Union européenne auprès des laboratoires. La Commission européenne, comme tu l'as dit, préfère ne pas révéler leurs identités. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de transparence?
Oui, exactement. Depuis le début de la pandémie, la Commission cache l'identité des négociateurs qui traitent avec les laboratoires. L'excuse qu'elle donne, c'est celle de la confidentialité, afin que ces intermédiaires ne subissent pas de pression. Seulement, cette explication est irrecevable pour beaucoup car il s'agit de milliards d'euros d'argent public, car les fabricants, eux, connaissent bien évidemment le nom des gens avec qui ils traitent, et enfin parce que cette crise sanitaire, c'est aussi en partie une crise de confiance envers le pouvoir et envers la parole politique. Peut-être qu'il faut d'abord rappeler d'ailleurs comment ces négociateurs ont été choisis. La Commission européenne a un mandat accordé par les États membres pour négocier les contrats de vaccins pour toute l'Union. Sandra Gallina, la directrice européenne de la santé et la négociatrice en chef, elle, tout le monde la connaît, mais elle ne travaille pas seule. Les 27 gouvernements nationaux ont mis en place un comité de pilotage pour superviser les appels d'offres avec leurs propres représentants. Et à partir de ce comité, s'est formée une équipe conjointe de négociation pour traiter directement avec les multinationales. Cette équipe est composée de 7 pays, l'Espagne, la France, la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Pologne. Et leurs intermédiaires sont les contacts privilégiés des laboratoires. Or, ce sont ces noms, ceux du comité de pilotage et de l'équipe conjointe de négociation que la Commission veut à tout prix cacher. Pourtant, tous ne sont pas impossibles à trouver.
Justement, tu as retrouvé un ex-lobbyiste du secteur pharmaceutique représentant la Suède dans l'équipe conjointe de négociation. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu peux nous dire qui sont ces négociateurs?
Oui, alors on a choisi de se concentrer du coup sur les 7 pays qui sont représentés dans l'équipe conjointe de négociation parce que ce sont les plus impliqués et puis aussi par souci de temps parce qu'ils ne sont que 7. Alors l'Espagne et les Pays-Bas nous ont confirmé qui étaient leurs négociateurs. Ce sont des hauts fonctionnaires avec des parcours souvent médicaux, donc eux ont choisi de divulguer le nom malgré les réticences de la Commission. L'Italie ne nous a pas répondu, mais on a quand même trouvé un haut fonctionnaire de l'agence médicale qui nous a confirmé que lui était dans le comité de pilotage, même si on n'a pas réussi à trouver qui étaient les négociateurs. A priori, ils sont issus du ministère de la Santé. L'Allemagne a littéralement refusé de parler avec nous, mais on a malgré tout trouvé deux personnes dont les profils ne sont pas vraiment problématiques. Ils sont issus aussi du ministère de la Santé. Mais cela étant, on a cru comprendre que même si ces profils étaient issus de la haute fonction publique, ces gens-là avaient été des porte-parole, en quelque sorte des laboratoires, et qu'ils avaient un petit peu accepté toutes les positions des groupes pharmaceutiques. Et ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on nous a dit en tout cas des sources internes et des sources variées, c'est que la raison principale, c'est que l'Allemagne a un secteur pharmaceutique fort, on l'a dit, BioNTech, qui fait monter le PIB de l'Allemagne de 0,5% cette année, donc l'Allemagne a fait le jeu des laboratoires. La Pologne, nous n'avons trouvé personne, mais on nous a dit qu'en fait la Pologne avait été très peu influente dans ces négociations, en grande partie à cause de ces tensions qu'elle a à l'heure actuelle avec l'Union européenne. Et puis tu l'as dit, on a trouvé un ex-lobbyiste, Richard Bergström, Storm, qui travaille pour la Suède. Et paradoxalement, c'est lui qui a été le plus facile à trouver, parce que la Suède ne cache pas que c'est lui le coordinateur national de la vaccination dans le pays, et que c'est lui qui est impliqué dans les négociations avec les laboratoires. Il nous a d'ailleurs parlé dans une interview, lorsqu'on a essayé de comprendre les prix, et il nous a dit que il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de secrets autour des négociations, et que lui-même, son nom était connu parce que son gouvernement ne pensait pas que son job devait être un secret. Pour autant, M. Bergström n'a pas toujours travaillé pour l'administration suédoise. Il a passé 30 ans dans les rangs de l'industrie pharmaceutique. 5 années, notamment, à diriger le lobby européen de l'industrie pharmaceutique, FPIA. Quand on a mis le doigt sur cette partie de son CV, il a dit qu'il ne voulait pas en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à fouiller un peu plus dans son passé. Et on a découvert que, en fait, Richard Bergström avait gardé des liens apparents avec le secteur. En plus d'être donc le coordinateur des vaccins pour la Suède, il suffit d'ailleurs de regarder son compte LinkedIn, c'est affiché sur son propre compte. Il fait du consulting pour plusieurs entreprises qui évoluent dans le secteur pharmaceutique. L'une d'entre elles fait d'ailleurs des produits en rapport avec la vaccination, elle fait des passeports vaccinaux. Il a plusieurs entreprises de lobbying en son nom propre également, qui sont basées en Suisse. Et lorsqu'il était déjà négociateur européen, il est apparu dans une vidéo sur YouTube pour faire de la promotion d'une entreprise qu'il a cofondée qui s'appelle Pharma CCX. Et c'était une vidéo promotionnelle où il se présentait comme un ancien lobbyiste en chef de Bruxelles. Et il faisait cette interview depuis le ministère de la Santé suédois, où il disait justement qu'il allait partir faire les négociations plus tard dans l'après-midi. Donc il continuait à travailler pour cette entreprise Pharma CCX alors qu'il était déjà négociateur pour la Suède. Ce qui est inquiétant, c'est que tous les négociateurs ont signé une déclaration d'absence de conflit d'intérêts. Et on ne dit pas d'ailleurs que Richard Bergström s'est rendu coupable de conflit d'intérêts, mais il n'a pas vraiment fait le ménage, disons, dans ses relations et dans ses emplois quand il a accepté ce nouveau travail. Ce qui est inquiétant, parce qu'on peut supposer qu'il puisse subir des pressions de ses collègues qui, eux, font du lobbying pour des entreprises pharmaceutiques.
C'est fou. Et en France, qu'en est-il ?
Alors en France, le gouvernement ne nous a communiqué aucun nom. Ils ont fait preuve d'un manque de transparence évident, mais on a réussi à les trouver en recroisant plusieurs sources. Ce sont des fonctionnaires de Bercy. Le négociateur donc de l'équipe conjointe de négociation s'appelle Pierre Cunéo. Il a commencé dans la fonction publique en 2003. Il a ensuite rejoint la SNCF. Il a ensuite été vice-président de la société d'électronique aérospatiale Thales. Il a également été le dirigeant du consortium Opal Défense, qui a été en charge de la construction du nouveau ministère de la Défense français, l'Hexagone Ballard, cette espèce de pentagone à la française, donc c'était des milliards d'euros d'argent public. Et la première fois qu'il a été cité dans la campagne vaccinale, c'est lors d'une audition au Sénat en juin 2021. Donc dans la foulée, il a bien sûr quitté toutes ses positions dans le secteur privé. Mais on peut se demander pourquoi c'est lui qui a été choisi, puisqu'il n'a aucune expérience dans le domaine de la santé, même s'il a l'habitude de travailler avec des entreprises privées. Et l'autre négociateur qui, lui, était au sein du comité de pilotage, qui n'y est plus à l'heure actuelle, hein, il a quitté à l'hiver, mais il y a été depuis janvier 2021, s'appelle Edgar Tilly. C'est un diplômé d'HEC qui est sorti de cette grande école en 2018 et qui a été conseiller discours et prospectif de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Donc on peut supposer que c'est un homme de confiance pour Bruno Le Maire, malgré son jeune âge et son manque d'expérience également dans le domaine de la santé. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les négociateurs français ont changé plusieurs fois depuis le début de la pandémie. Il semble d'ailleurs que la plupart soient tous issus du secteur économique plutôt que de celui de la santé. Il y a cependant au moins une exception au tableau, il s'agit de Jean-Christophe Dantonel, un biologiste qui a participé à la première série d'accords au début de la pandémie.
D'accord, donc c'est vraiment des profils différents de l'Espagne et de l'Italie, comme tu l'as déjà dit. Bah écoute, merci beaucoup pour ton expertise, on espère que tu vas bien te remettre de ta troisième dose, et on te dit à bientôt. En attendant, on vous conseille de relire les enquêtes concernant les vaccins et l'enquête Newsfeed que Maxence Peignet a signée. Vous pouvez les retrouver sur notre site en français, mais aussi en anglais, en italien, en allemand si vous le souhaitez. On vous conseille aussi de vous abonner à notre podcast sur toutes les applications de podcast, et on vous retrouve bientôt. Au revoir.
Au revoir.